Nos ambitions demandent de
Rampe,
dire.
sur la rampe, ce qu'on appelait la rampe, c'était les quais on peut pas dire de la gare, mais enfin de l'arrivée du train à Birkenau. Et on nous a fait savoir qu'il y avait 3 km à faire à pied. Ceux qui étaient fatigués, qui ne voulaient pas faire les 3 km, de prendre les camions qui étaient sur la rampe, sur le quai, et les autres se mettaient en rampe pour partir à pied. Alors, j'avais connu un petit jeune dans mon train, dans mon wagon. Il était le pauvre, il avait été arrêté, il a perdu, il était complètement perdu, il était tout jeune. Enfin, tout
Quel
jeune,
âge?
remarque, j'étais pas bien vieux, mais il devait avoir 20 ans ou 19 ans. Mais bon, mais enfin, il était surtout faible. Bon, et il pleurait ses parents. Alors, je l'avais pris un peu sous mon aile, et puis. Il n'avait plus à manger, je lui ai donné un morceau de pain le premier jour, quand j'en avais encore. Et il est tout le temps resté près de moi, à côté de moi. Alors en descendant des wagons et qu'on est arrivé là sur le quai, ben, je lui ai dit on va prendre le camion. Hein. On est resté 3 jours, 2 nuits et 3 jours dans les trains, on va partir. Et puis en plus, il y avait de la neige. Et on dit, on va prendre le camion. Alors il me dit, tu fais ce que. Moi je te suis, il me dit, tu fais comme tu veux. Hein. Alors j'arrive à un camion. En bas des camions, c'est des camions militaires. En bas des camions, il y avait des marches. Ils avaient mis un escabeau de 3 marches. Et je commence à monter et je rentre dans le camion. Je passe une jambe, il y a les SS qui était au bord du camion, qui me dit non, le camion est plein, tu descends. Et il me refait redescendre et me dit tu prends le prochain. Et puis il tire les bâches, le camion était complet et il est parti. Le camion est parti. Pas enfin, lui, c'est le chauffeur, bien sûr. Et ben, nous, on s'est retrouvés, ce petit s'appelait Simon. C'est tout ce que je me souviens. J'étais donc seul avec Simon sur le quai, là, je dis qu'est-ce qu'on fait? Alors il m'a dit tu prends le prochain camion. Je me retourne, il n'y avait pas de camion derrière. Et à côté, à 10 mètres, il y avait les colonnes qui partaient à pied. Et ils commençaient à partir. Ah ben j'ai dit, écoute, hein, on part à pied, hein, on ne va pas attendre. D'autant plus qu'il neigeait, faisait un froid. Et il dit, bah, tant pis, hein, on va faire 3 km, bon, on va partir à pied. Et on est parti à pied, et c'est comme ça qu'on est rentré dans le camp. C'est le surlendemain que l'on a su que tous les gens qui étaient rentrés en camion, ils sont tous passés à la chambre à gaz en arrivant. Alors ça, c'est un truc extraordinaire. Je voulais rentrer dans le camion. J'étais à moitié dans le camion. On m'a fait sortir parce qu'il était plus complet. On aurait pu me prendre, le dernier. On m'a fait sortir, descendre, et je suis rentré à pied au camp. Alors, en arrivant au camp, bien sûr, on n'avait pas ce qu'on nous avait promis, c'est-à-dire un petit déjeuner. On avait promis ceux qui rentraient à pied, ils allaient avoir un café chaud, un petit déjeuner. Idem pour ceux qui partent en camion, à l'arrivée, il y aura de quoi vous recevoir. Et nous sommes arrivés, bon, on a fait la queue pendant des heures, des contrôles, et puis finalement, après, on nous a mis dans une autre file. Où on nous a donné à chacun un carton, un petit carton, avec un numéro.
On peut voir votre numéro. C'est là où on vous a tatoué, donc.
Et oui. Et on nous a donné un carton avec un numéro.
Quel est votre numéro?
164
C'est la première fois que je vois un numéro aussi lisible.
Cuisinière l'a pas lisible. Il
Non.
a été tatoué en même temps que moi.
C'est vrai que
C'est
c'est.
vrai qu'ils sont plusieurs à tatouer. Hein. On est passé devant des tables, on passait après avoir reçu notre numéro, on passait par ordre alphabétique. Hein. Mais je vais même vous dire mieux, parce que c'est quand même. Je ne sais pas si c'est racontable, mais enfin je vous le dis. Moi, mon numéro, c'était 443. Et il y avait le colonel Blum, qui était le chef du camp de Drancy. Qui a été déporté avec nous à cause de l'histoire du tunnel, il avait le 444. Je lui dis, Oh, écoute, ça m'embête. Tu veux... Alors, j'ai vu son carton et le mien. J'ai dit 164, c'est bien, c'est 4 x 4, 16. 16. Enfin, ça me plaisait, ce numéro. Je ne sais pas pourquoi, rien que de le voir dans le carton. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'on allait nous tatouer. On nous a donné un numéro, un carton avec un numéro. Et alors, je vois donc le colonel Blum, il avait le 444 et moi le 443. Alors, je dis, tu ne veux pas changer? Il dit, pourquoi? Ben, je dis, rien, parce que je suis avec des amis derrière. Alors, il a pris mon carton. Lui a été tatoué 164 443. C'était le lieutenant-colonel Blum, Robert Blum, qui était un cousin de Léon Blum et qui est passé au prix, après au faux crématoire avec plusieurs gars en chantant la Marseillaise. Il avait fait un coup d'éclat, puis ils sont tous passés au crématoire, sans savoir qu'ils y allaient d'ailleurs. Bon, finalement, il m'a donné son carton et je lui ai donné le mien. Et j'ai été tatoué 444. Je me dis, je sais pas, c'est un truc con, ça me revient en mémoire comme ça, mais... Ça rime à rien, c'est... Et c'est ainsi que j'ai été tatoué 444. Après le tatouage, on est passé à la désinfection.
Pardonnez-moi une parenthèse, qu'est-ce qui tatouait ? C'était des détenus ?
Ah oui, bien sûr. Tout était fait dans les camps, tout était fait par les détenus. Le Canada, le Sonderkommando... Tous les commandos, tout le monde, ce n'était que des...
Que des détenus.
Que des détenus, hein, tous. Et dans les Sonderkommandos et au Canada, que des juifs. Que des juifs, hein. Tout était fait par des juifs. Et les SS donnaient les ordres, et après ils se lavaient les mains. Ils savaient que les ordres seraient exécutés parce que les responsables... juifs des camps, des commandos, ils tenaient à leur place et à leur peau, et ils faisaient exécuter les ordres que les Allemands leur donnaient. Ça, c'est à tout coup, hein. Donc, après, on nous a déshabillés, on est passé à la entièrement à poil, bien sûr, on est passé au rasage, alors, il y avait d'immenses tables, des bancs, dans des baraques, bien sûr, des bancs surélevés comme ça, les coiffeurs étaient assis sur des, pas sur un divan, mais sur des chaises, et ils avaient des rasoirs électriques, des tondeuses électriques, et ils rasaient tout le monde, les hommes comme les femmes, des pieds à la tête, rasaient tout. Et ils gardaient les poils, car bien précieux, ils en faisaient faire des pullovers, enfin, les Allemands en faisaient faire des pullovers.
À ce moment-là, la première journée, il y avait aussi bien les hommes que les femmes ? Vous étiez déjà entre hommes ?
Non, au rasage, on était entre hommes. On était séparés. On était séparés.
Et au tatouage ?
Au tatouage, aussi. Oui, oui, on séparait les hommes et les femmes, oui, oui. C'est après que... Non, mais de toute façon, dans tous les camps, il y avait les commandos masculins, il y avait les commandos féminins, hein. Il n'y avait pas... On n'était pas... Même dans le camp d'Auschwitz, on était séparés, hein. Il n'y avait pas une baraque de femmes, une baraque d'hommes. Hein. On avait des baraques avec des barbelés électrifiés. C'est pas bien séparé. Hein.
Qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Ensuite, après avoir été rasé, je ne vous dis pas dans quelles conditions, parce que des coups de tondeuse, on en recevait un peu partout. Après, on n'est pas... Et on l'a su qu'après, combien ça faisait mal. Parce qu'on passait dans un bain de détergent, de je sais pas quoi, d'un produit, où, alors toutes les éraflures, toutes les coupures, tous les machins des tondeuses, c'était affreux, parce que ça faisait des douleurs terribles. C'est le désinfectant. Alors on y plongeait dedans, hein. Alors j'aime mieux vous dire que ça faisait... Et après on est sorti en plein air, et on a attendu quelques heures. Sous la neige, dans la neige, nu, ah oui, nu, bien sûr. Mais enfin, on était quand même pas mal parce qu'on était tous grassouillés. On est tous de venir d'être arrêtés. Hein. Parce qu'après, je vais vous raconter après, quand après il y avait les gens nus, c'était pas beau. Hein. C'était des cadavres ambulants. Hein. Là, on était bien. Hein. On venait d'arriver, tout le monde avait été arrêté 8 jours, 15 jours, ou même un mois avant. Mais à Drancy, on mangeait quand même. On mangeait mal, mais on mangeait. Hein, les gens ils perdaient pas des 10 kilos, hein. On perdait 1 ou 2 kilos, mais enfin, on mangeait. Ensuite, bon, ben, on a tendu nu dans la neige. Et finalement, au bout de quelques heures, on nous amenait des vêtements. Vêtements rayés qui venaient, qui étaient humides. Humides qui venaient de la buanderie, de la désinfection. Alors ça, il y avait, c'était désinfecté. Mais alors, c'était sale comme tout. Les traces de puces, les traces de poules et tout ce que vous voulez. Mais c'était désinfecté. C'était passé à l'étuve. Alors, on nous a donné des vêtements. Alors, chacun avait ce qu'il avait. Il y avait un pantalon qui lui arrivait là. Moi, le mien, il m'arrivait là. Bon, sûr que...
Juste une chemise, un pantalon.
Ils appelaient une veste. Mais enfin, une veste, il y avait que la veste et le pantalon. Et après, c'était la galoche de bois. Après, il fallait courir dans un autre entrepôt pour trouver des galoches. Et ensuite, après quand même, tout de même avoir attendu 2 ou 3 heures, on a eu droit au premier repas d'Auschwitz, la gamelle de soupe. Et ensuite, on a encore attendu. Alors là, il faisait déjà nuit, mais toujours dans la neige et dans le froid. On a attendu et finalement, on nous a ouvert les baraques, on nous a attribué des baraques où on est rentré, on était 2000 par baraque ou 1500 par baraque suivant. Mais enfin, j'étais tout environ de 2000 places.
Vous sur des chalets. Numéro de la vôtre ?
Pardon ?
Vous vous souvenez du numéro ?
La première, non, il n'y avait pas de numéro. On était en camp de quarantaine.
Ah, oui.
Je me souviens, après, je me suis souvenu du camp, de la baraque où je suis arrivé après la quarantaine, à Monowitz. C'était le 32. Alors ça m'a fait très curieux parce que automatiquement 4 x 4, 16, 16 et 16, 32, j'avais la baraque 32. Alors j'ai toujours pensé des trucs, des conneries comme ça qui me sont passées dans la tête. Bon. Eh bien, ensuite, on a passé la nuit comme on a pu, à 12-13 sur un chalet, sur une planche. Et le lendemain matin, on nous a annoncé que nous avions une chance énorme. Nous n'allions pas travailler, nous étions dans le camp de quarantaine. Nous étions dans le camp de quarantaine, on est resté 3 semaines, je crois. 15 ou 20 jours.
Période pendant laquelle vous étiez isolé.
Ah, tout à fait. On était entre nous,
À quoi vous occupiez les journées ?
À parler de manger. On supputait, on se demandait qu'est-ce qui va nous arriver. On avait encore... Il y en avait qui avaient l'espoir dont on ne savait pas. On ne savait pas du tout l'existence des fours crématoires à ce moment-là. On l'a su qu'après. Alors bon, on s'est imaginé qu'on était arrivé dans un camp de travail. On ne sait pas ce qu'on...
Et après, en sortant de la quarantaine,
alors un jour après la quarantaine, le camp de quarantaine, moi j'ai été désigné, moi et d'autres bien sûr, quelques-uns, nous avons été embarqués dans les camions et nous sommes allés à Monowitz, à Bouna, travailler à Bouna. Oui, la seule chose qu'on faisait sur la quarantaine quand même, on a appris quand même l'organisation du camp, on a appris l'existence des fours crématoires, des sélections, parce que, bon, il y avait les anciens, les capots qui passaient, qui nous disaient. Hein. On a été quand même mis en condition, hein. Et puis 15 jours, le 13 décembre, je me rappelle, le 13 décembre 43, je suis parti, j'ai été nommé pour aller travailler à Monowitz, à Bouna, pour faire le caoutchouc synthétique, je crois qu'il faisait là-bas, caoutchouc synthétique. J'ai travaillé là-bas. Alors là, j'ai eu la première baraque, elle a été numérotée, j'avais la baraque 32. Là, je m'en souviens.
Et qu'est-ce que vous avez fait comme travail là-bas ?
Du terrassement. Des tranchées, puis après les câbles. Alors là, c'était pénible parce que...
Des câbles pourquoi ?
Ben, je ne sais pas. Et on avait des roues immenses, des roues en bois immenses, dans lesquelles étaient enroulés des gros caoutchoucs, des gros tuyaux, et on les passait, on ne savait pas. On pouvait demander à personne, il n'y avait personne pour nous renseigner. On nous mettait à la trique, il fallait faire ceci, cela. Alors on déroulait, un autre y tirait, un autre y poussait, mais enfin, voilà, on ne savait absolument pas pourquoi. On nous a rien dit, on ne nous a pas dit ce que nous allions faire.
Et est-ce que vous avez été malade ou est-ce que vous avez eu des
Ah bah oui,
piqûres?
bah, je suis vite tombé malade parce que
Qu'est-ce que vous avez eu?
j'ai eu d'abord un phlegmon.
Où ça?
Le premier phlegmon, là, au cou. J'ai eu un phlegmon au cou. Et j'ai été opéré. Oui, c'est ça, au cou. J'ai été opéré à. Enfin, opéré, c'est un grand mot. J'ai été incisé
Au revire.
au revers, oui. Et je crois que le surlendemain, je suis retourné travailler. Et puis, je suis retombé malade quelques jours après. Alors là, j'ai eu un phlegmon énorme à la cheville. Et on voit les cicatrices des deux côtés, là. J'ai été opéré. Maintenant, c'est assez drôlement résorbé parce que bientôt 60 ans après. J'ai eu un phlegmon énorme. J'avais la cheville qui était plus gros que ma cuisse. On n'a pas pu enlever mon pantalon, il a fallu le cisailler tellement c'était énorme.
Qui est-ce qui vous a opéré? Enfin, cisaillé.
Un libraire. Un libraire. Vous l'avez vu dans mon livre, hein? Un libraire. Il était là parce qu'il a eu de la chance d'être là. Puis l'autre côté aussi, c'est incisé. Je ne sais pas si on va être servi, mais enfin. Vous ne devez pas. Mais alors à l'époque, je vous dis, la cheville était plus grosse que mon genou et que mon pantalon. Il a fallu couper le pantalon au couteau pour pouvoir l'enlever parce qu'on ne pouvait pas le passer. On ne pouvait pas le sortir. Et je suis resté à ce moment-là 8 ou 10 jours au revire à Monowitz. Et on m'a fait partir à Birkenau parce que ma convalescence était trop longue. Il faut dire que le camp de Bouna-Monowitz, c'était une usine qui appartenait à Liegenfarben et qu'ils prenaient que les déportés qui pouvaient travailler, qui étaient rentables. Ceux qui ne pouvaient pas travailler, les faisaient partir et ils partaient à Birkenau pour passer à la chambre à gaz. C'est là que j'ai eu une chance inouïe. Bon, je suis parti à Birkenau et j'ai eu une chance énorme. C'est là que j'ai rencontré le docteur Robert Lévy, qui a été vraiment très, très extraordinaire pour moi. Tout ça parce que j'avais connu Dreyfus à Clans, qui était un de ses amis d'enfance et qui a été arrêté à Clans.
Qui était Robert Lévy?
Robert Lévy, c'était un joint professeur de médecine de Strasbourg, qui a été arrêté, qui était à Auschwitz, mais de par son métier, il était directeur. Il avait la responsabilité, après les SS, du revir de Birkenau.
Et il vous a soigné.
Très bien. Il m'a bien soigné et il
Avec
m'a.
quoi?
Eh bien, il me donnait des médicaments. Je ne sais pas, hein, moi, je ne voyais pas, j'étais allongé. Qui m'a bien soigné, autant qu'il pouvait, et qu'il m'a bien nourri, beaucoup plus que ce qu'avaient les autres. Et un jour, il m'a fait sortir de l'hôpital, du revir, en me disant, demain tu vas travailler. Ah, mais je lui ai dit, je ne peux pas travailler, regarde ma jambe, je ne peux pas mettre le pied par terre. Il me dit, tu vas travailler, demain tu sors, tu vas travailler. Si tu ne tiens pas le coup, tu reviens après-demain. Mais tu sors demain matin, travailler, tu rentres au camp. C'était un ordre, je ne pouvais pas faire autrement, il avait signé les papiers et tout, et on m'a fait sortir, et le lendemain j'ai su que les SS étaient passés, ils avaient pris tous les malades de l'hôpital, et ils sont tous passés à la chambre à gaz. Il m'a sauvé la vie en ce sens, il m'a fait sortir ce jour-là, et je suis retourné le lendemain.
Il vous a pas dit comment il l'avait su?
Ah non. Non.
Vous l'avez vu après? Pourquoi?
Oui,
Pourquoi
avant
vous?
sa mort. Puis il est décédé maintenant. Oui, je l'ai revu après la libération. Après, quand on est revenu. Ah, ben oui, bien sûr.
Vous êtes revenu au revir après?
Je ne pouvais pas marcher. Sûr. Je ne pouvais pas marcher. J'ai travaillé un jour dans des conditions lamentables. J'en pouvais plus. Je suis rentré le soir mais j'ai été de suite admis. Et là, il m'a dit. Et là, il m'a dit. Je t'ai fait sortir parce qu'il y avait la sélection hier, et tu serais passé comme les autres. J'ai pas voulu te le dire, te prévenir, mais je t'ai fait sortir. Enfin, je l'ai maudit, hein, parce que dans la journée que j'ai travaillé, j'en pouvais plus. Mais après, bien sûr, je l'ai remercié, bien sûr.
Lorsque vous êtes sorti du Révier, qu'est-ce que vous avez fait comme travail ?
Des boîtes chemin de fer, pas du terrassement, hein, toujours le travail d'usure, le terrassement. On creusait, on ne sait même pas ce qu'on creusait. On creusait, on portait des briques, des sacs d'un côté, et puis le lendemain, on ramait cela à la place d'hier, et rien du travail d'usure. Et puis le rendement était tellement faible. Ben on faisait, je ne sais pas ce qu'on faisait. On le faisait. C'est avec les SS qui avaient les plans. Nous, on ne savait pas. Ils nous disaient pas ce qu'on faisait. On avait des ordres de faire ceci. Alors du matin au soir, on creusait à tel endroit. Puis, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pour qui. Je ne sais pas pourquoi.
Qu'est-ce que vous avez fait d'autre encore ?
À Auschwitz ? Ben, en dehors du terrassement, porter des sacs de ciment, les voies de chemin de fer. Ben, j'ai fait rien d'autre, puisque après j'ai été pris au Canada.
Racontez comment.
J'ai eu la chance, un jour on devait travailler au chemin de fer, aux voies de chemin de fer. On appelait la voie de chemin de fer qui reliait la gare de Birkenau jusqu'au four crématoire. Parce que lorsque moi je suis arrivé en novembre 1943, il fallait faire 3 km à pied. Mais après, les Allemands avaient fait faire le chemin de fer jusqu'aux portes du crématoire. Et on travaillait à ces voies de chemin de fer. Après, les gens qui sont arrivés en 1944, ils descendaient du train, ils rentraient directement au four crématoire.
Donc en faisant ces rails, vous avez approché le crématoire ?
Pardon ?
En faisant ces rails, vous avez approché le crématoire ?
Oui, mais on savait ce qui se passait dedans, mais bon... On tournait plutôt le dos parce qu'on n'avait pas envie de tellement de les regarder. Hein.
Et vous êtes allé donc au Canada, vous disiez, racontez-nous.
Un jour, je crois bien en avril 1944, avril ou mai, je crois, enfin, nous étions prêts après l'appel de partir travailler comme d'habitude, et il y a 3 SS qui sont arrivés. Mais ils nous ont fait arrêter et mettre de côté. On a fait sortir tous les autres commandos du camp, tous les commandos de travail. Quand tout le monde est parti, ils nous ont remis en rang, regardés, tâtés, touchés, et ils passaient, je ne sais pas. Bon, et ils ont pris Prenez des gars, par là, les autres par là, par là. Alors j'étais pris par là avec... une trentaine, je crois, 30 ou 35, enfin, je ne me souviens plus exactement. Enfin, un petit groupe, on nous a mis de côté, et tous les autres ont été remis en rang et sont partis travailler. Et nous, les 35, sommes repartis après, ils nous ont fait reprendre des douches, miracle, une douche, et des nouvelles baraques, confortables, bien confortable à côté de ce que nous connaissions, et ils nous ont dit à partir de demain matin, vous allez travailler, on vient vous chercher pour travailler. Et c'est le lendemain qu'on avait la trouille, parce que quand il y avait toujours des isolés qui partaient comme ça, on avait toujours peur, c'était toujours les sélections pour le four crématoire. Et bon, ben, on nous a mis dans une baraque, le lendemain matin on nous a mis dans un lieu de travail, toujours dans le camp d'Auschwitz, qui était extraordinaire. Il y avait des tas de pain, des tas de... Il y avait de tout, enfin de tout. Ça avait l'air d'opulence. D'ailleurs, le Canada a été appelé le Canada parce que dans l'esprit des Allemands, ou des Polonais, je ne sais pas, hein, qui l'a baptisé le Canada, c'était la merveille, c'était l'Eldorado. Il y avait tout là-bas. Et effectivement, c'était tous les colis... des déportés qui rentraient au four crématoire étaient rassemblés là. Nous les trions, on les rangeait comme on nous dit de les ranger. On avait le droit de manger tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on trouvait. Et le travail était dur dans ce sens que on faisait beaucoup plus d'heures en plus. On faisait 12 heures ou 14 heures d'affilée. Mais On mangeait, les SS nous laissaient manger. Et puis nos voisins, ceux qui étaient dans le commando avant nous, qu'on a rejoints, ils étaient pas grassouillés, mais enfin ils se portaient bien, à côté de nous, à côté des musulmans que nous étions. Et c'est là que, bon, je me suis retapé, et après on a appris que par les voisins, par nos amis du commando, que c'était nous qui ramassions toutes les affaires des gens qui passaient au fond crématoire, et que nous devions les trier, que nous devions faire ceci, cela, et ça nous a permis de survivre.
Qu'est-ce qu'il y avait comme affaires, par exemple ?
Les affaires ?
Oui.
Bah, d'abord, les valises des gens qui arrivaient. Il y avait de tout dans les valises. Il y avait des poteaux, il y avait du linge, il y avait des vêtements, il y avait de tout, de la vaisselle. On trouvait même des billets de banque, en cherchant bien. En décousant des vêtements ou quoi, on trouvait des billets, de l'argent caché dedans.
Et qu'est-ce que vous faisiez alors quand vous trouviez de l'argent ?
Ah ben l'argent là-bas n'avait pas grande valeur. Quand on trouvait de l'or, c'était merveilleux. Des bijoux, et encore, de l'or. Les montres de l'or.
Vous en avez trouvé ?
Oui. Tout le monde en trouvait. Hein. Tous ceux qui travaillaient là en trouvaient. Et puis j'ai eu un miracle, une chance extraordinaire encore, qui fait partie de mon destin. Un jour, à l'arrivée d'un train en provenance de Belgique, j'ai trouvé une mallette remplie de bijoux, de pierres. Malheureusement, il n'y avait pas d'or, c'était des pierres. Des pierres et des perles. Alors, ces pierres et ces perles, invendables au camp. Parce qu'on trafiquait avec les SS. Hein. Dans ce camp-là, on trafiquait avec les SS.
C'est-à-dire ?
Avec nos gardes, ben, on leur donnait, on avait de l'or, on trouvait de l'or. Au lieu de le remettre dans la caisse où il fallait le remettre, on leur donnait, mais on leur demandait quelque chose en échange. C'est comme ça qu'on avait de l'alcool tous les soirs et que tout le monde se biturait avec l'or qu'on donnait aux SS dans la journée. Ces pierres n'ayant aucune valeur, ben je les ai jetées dans les toilettes, dans les chiottes, pour pas que les SS en profitent. Parce qu'eux, ils auraient pu en profiter, parce que des pierres, ça avait de la valeur sur le marché mondial. Mais dans le camp, ça n'avait pas de valeur. Dans le camp, il n'y avait que les cigarettes et l'or qui avaient de la valeur. Pour acheter à manger, pour acheter à boire, pour acheter un médicament, pour acheter... une fille déportée.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle a été votre façon de vous organiser, justement ?